Voilà, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Alors désolé, on a attendu un peu avant de commencer, histoire de laisser du temps à ceux qui prévoient de venir, d'arriver. En tout cas, sentez-vous accueillis. C'est avant tout notre Père Céleste qui nous accueille dans ces lieux. Alors nous sommes réunis ce matin pour vivre un culte ensemble. Nous allons prier, nous allons chanter, nous allons écouter Dieu à travers la lecture de sa parole dans la Bible. Et ce culte est particulier, vous le savez, car nous aurons la joie d'entendre le témoignage de Thérèse et de la baptiser. Nous aurons l'occasion de parcourir ce que la Bible dit sur le baptême, quel est le sens de cette démarche pour nous, protestants évangéliques. Avant cela, je vous propose de prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, merci. Merci parce que c'est toi qui nous offres cette journée. C'est toi qui nous donnes cette liberté de nous réunir en ton nom ce matin. Merci parce que nous pouvons te louer, t'adorer et être à ton écoute. Merci parce que c'est toi qui nous permets cela et nous voulons être attentifs à ce que tu souhaites nous communiquer, à ta présence. Rends-nous ouverts à ta présence et à ta parole. Que ce temps soit béni pour chacun d'entre nous et surtout que ce temps soit à ta gloire. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors je vous propose de chanter un premier chant qui s'intitule « Nous venons dans ta maison ». Dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, la maison de Dieu était surtout le temple de Jérusalem. Mais Jésus a envoyé son esprit lors de la Pentecôte et il est dit que toute personne qui accepte l'esprit devient la demeure du Saint-Esprit. Dieu habite en lui. Alors la maison de Dieu n'est plus représentée par un bâtiment, mais c'est nous. Et lorsque nous nous réunissons, comme ce matin en assemblée, nous formons d'autant plus la maison de Dieu. Nous venons dans ta maison. Et donc on peut se lever pour les chants.
Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer.
pouvez reprendre place. Je vous propose maintenant la lecture d'un psaume. Les psaumes forment un recueil de poèmes et de chants dans la Bible. Lecture du psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe que je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Dans ce psaume, le roi David proclame qu'il ne souhaite pas adorer un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu révélé dans la Bible. David a une relation avec l'Éternel. Il sait que malgré les épreuves, l'Éternel est là et que sa destinée est entre de bonnes mains. « Tu me fais connaître le sentier de la vie, » dit-il. « Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel, éternel donc, qui durera jusque dans l'éternité, à ta droite. » Dieu est grand et bienveillant. Je vous propose d'exprimer sa grandeur et son amour par le chant suivant, infiniment grand. Et nous pouvons nous lever pour les chants.
Alors mon âme est séduite de tout mon cœur. Je me
Tout à l'heure, nous allons entendre le témoignage de Thérèse et elle se fera baptiser. Avant cela, je vous propose de lire quelques textes dans la Bible qui parlent du baptême. Nous lisons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Le baptême est un geste qui rappelle l'œuvre de Jésus sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Il a vaincu définitivement la mort et il offre cette victoire à quiconque met sa confiance en lui. Il nous propose en quelque sorte d'entrer dans son équipe gagnante, une équipe qui a déjà gagné et nous pouvons y entrer. Le baptême symbolise la mort d'une ancienne vie et le démarrage d'une nouvelle vie, une vie aux côtés du Christ, une vie qui se laisse guider par son esprit. Nous lisons aussi ceci dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 21 et 22. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Le verset 21 précise que le baptême n'est pas un acte qui opère une quelconque purification physique. Le baptême symbolise un engagement envers Dieu. C'est une décision consciente. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'apôtre Pierre précise ensuite que c'est bien la résurrection du Christ qui sauve. Le baptême reste un geste symbolique, il symbolise l'engagement pris par la personne baptisée. Et ce qui nous sauve, c'est uniquement l'œuvre du Christ. Verset 22, il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Dans nos églises évangéliques libres, comme dans la majorité des églises protestantes évangéliques, nous baptisons celles et ceux qui en font la demande. Selon notre lecture des Écritures, il s'agit d'un choix libre, délibéré, un choix personnel. Pour nous, le baptême est un geste qui symbolise, qui manifeste un engagement pris. Lorsque nous baptiserons Thérèse, elle ne va pas recevoir quelque chose en plus, elle ne sera pas transformée, parce que la transformation a déjà eu lieu. La grâce, elle l'a déjà reçue. Le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans sa vie. Le baptême symbolise simplement tout cela. Elle l'a reçu avec foi et elle souhaite le montrer par un geste qui rappelle l'œuvre du Christ, de Jésus, en notre faveur. Avant de donner la parole à Thérèse, je vous propose de prendre deux chants qui nous rappellent que seul Jésus nous offre la vie éternelle. Seul le Christ peut nous sauver de cette vie et de ce monde marqué par le mal, abîmé par le mal, la souffrance, la maladie et l'injustice. Nous avons cette espérance certaine que Jésus est notre Sauveur. Nous prenons deux chants à la suite. Ô Jésus, mon Sauveur, et mon secours est en toi. Et nous pouvons nous lever.
Je te louerai, car ton amour est bien.
Voilà, je vais maintenant donner la parole à Thérèse qui va apporter son témoignage, qui va présenter son parcours qui l'a mené jusqu'au baptême aujourd'hui. Et ensuite, nous allons la baptiser. Et lorsqu'elle sortira de l'eau, nous pourrons chanter deux chants qu'elle a choisis. Tu peux naître de nouveau et majesté. Alors pendant ce temps, Thérèse va pas rester pendant le culte toute mouillée, elle va aller se changer. Et ensuite, lorsqu'elle sera revenue, nous pourrons prendre un moment, un temps de prière libre, pour prier pour elle et pour prier selon les sujets que Dieu nous met à cœur. Voilà, donc je vais laisser Thérèse présenter son témoignage.
Bonjour à tous. Élevée dans une famille chrétienne catholique, j'allais avec la foi dans la Trinité au cœur, sans me poser la moindre question existentielle. Adulte, le chemin de ma vie devint rocailleux, épineux, douloureux, ce qui fit de moi, pendant 8 ans et demi, une athée. Pendant l'été 1988, l'Esprit Saint vint avec force dans mon cœur, une énorme grâce que je n'avais pas demandée. Puis, ce fut le temps de la souffrance spirituelle. Il y a 2 ans, je participais ici à Gobert, en collaboration avec des catholiques de Vauve, au parcours Alpha, une révélation pour moi. En faisant témoignage, un soir de parcours, je me présentais comme chrétienne résiliente et catholique dissidente. J'ai très vite su, dans mon cœur, que Dieu m'appelait ici au temple avec mes frères et sœurs de l'Église évangélique. Il y a 1 an, je me joignais au culte du dimanche matin. J'ai donc demandé au pasteur Christian le baptême pour manifester mon renouveau spirituel dans le Christ que je reconnais comme mon sauveur et mon guide. Et non seulement comme mon sauveur et mon guide, mais comme ma joie, mon espérance et ma force.
Merci beaucoup, Thérèse, pour votre témoignage. Alors voilà, nous allons passer au baptême. Alors Thérèse, nous avons entendu votre témoignage. Confirmez-vous que Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur, et que vous souhaitez le suivre?
Je confirme que Jésus est mon Seigneur et que je le suis et que je crois en lui. Voilà.
Là, nous avons entendu votre témoignage, votre confession de foi. Nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous pouvons prendre les 2 chants que Thérèse propose. Alors, elle viendra peut-être pendant le deuxième, mais nous rechanterons à la fin le chant qu'elle a choisi, parce que c'est dommage qu'elle a choisi et qu'elle ne chante pas avec nous.
Je veux te connaître, parler et t'avais passé.
Père, merci parce que tout ce que tu nous l'offres gratuitement et nous n'avons rien à faire. Merci parce que lorsque nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, de t'ouvrir notre cœur, eh bien c'est ton esprit qui agit en nous. Merci parce que tous ces cadeaux nous viennent de toi et cela ne dépend pas de nous, mais c'est ton œuvre dans notre vie. Et c'est pour ça que nous te prions aussi pour que tu continues à agir dans nos vies, dans celles de nos proches, ceux que nous aimons, mais au-delà encore. Et merci parce que ton œuvre est plus grande que ce que nous pouvons penser. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous avons cette foi que c'est toi qui as le dernier mot, c'est ta victoire qui a le dernier mot. Et effectivement, nous attendons cette vie pleine et entière auprès de toi. Mais en attendant, nous sommes là, sur cette terre, pour témoigner de toi. Donne-nous ce courage et la force et l'inspiration pour être tes témoins. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons chanter le Notre Père et nous pouvons nous lever pour cela. Donc c'est le Notre Père mais en version chantée. À nouveau avant la prédication, la lecture de sa parole. Notre Père, nous voulons être à ton écoute, à l'écoute de ce que tu souhaites nous communiquer encore pendant la suite de ce culte à travers ta parole. Merci parce que c'est ton esprit encore qui nous ouvre l'intelligence, qui nous ouvre notre cœur, qui nous fait comprendre ce que nous ne pourrions pas comprendre par nous-mêmes. Que tu sois encore à l'œuvre et que ta parole soit agissante dans notre vie, non pas seulement aujourd'hui, mais au quotidien. Amen. C'était il y a 3 jours, en début d'après-midi, je m'apprêtais à faire la sieste, quand soudain, j'entends un homme frapper à la porte de manière insistante. « Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte !» criait-il. D'habitude, j'ai peu de clients à l'hôtel à cette heure-ci. Alors j'étais perplexe. Que se passait-il ? L'homme insistait lourdement. Je me sentais agressé par son acharnement. Il frappait encore et encore à la porte. Alors j'entr'ouvre la porte et j'aperçois un homme torse nu, les mains pleines de sang. Je lui demande « Que voulez-vous ? » Et l'homme me répond « S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai trouvé un homme au bord du chemin. Il est gravement blessé. Il a besoin d'un lit. » Son accent étranger, son allure d'escroc, ses mains pleines de sang, tout cela est suspect. Je refuse de le laisser entrer. « Je ne veux pas me mêler de vos règlements de compte. Allez-vous-en, trouvez un lit ailleurs. » Mais l'étranger força la porte et il portait un homme dans ses bras. « Ne le laissez pas mourir, suppliait-il. Je l'ai trouvé au bord du chemin. Je lui ai fait des bandages avec mes vêtements. Il a besoin de soins et de repos. » L'homme blessé était effectivement inconscient et plein de sang. Je l'ai observé et j'ai répondu à l'étranger, « Monsieur, il est mort. »« Pas du tout, » répondit-il. « Il respire encore. Il a ouvert les yeux sur le trajet. Dépêchez-vous de lui trouver un lit. J'ai de quoi vous payer et vous dédommager. » Impossible de discuter avec cet étranger. Il ne me laissait pas le choix. Il était en train de traverser tout l'hôtel déjà. Je lui montre alors une chambre libre où s'installer à l'étage. Les deux hommes y restèrent enfermés toute la nuit. Le lendemain, l'étranger vint me voir avec de l'argent. « Je vous donne tout cet argent, dit-il. Prenez bien soin de lui, s'il vous plaît. Quant à moi, je dois continuer mon voyage, mais je reviendrai bientôt vous voir et je réglerai les dépenses supplémentaires s'il y en a. » Alors j'accepte et je monte aussitôt dans la chambre, voir dans quel état il me l'a laissé. La victime était allongée, les yeux fermés, immobile. Est-il vraiment vivant ? L'étranger m'aurait-il laissé à mort dans mon hôtel ? Pour en avoir le cœur net, je m'approche et l'observe attentivement en scrutant le moindre signe de vie. Mais toujours rien. Je tends alors l'oreille vers son visage pour écouter s'il respire. « Restez où vous êtes !» Tout à coup, je vis 2 soldats arriver sur le pas de la porte. « Le voisinage nous a signalé qu'un étranger est venu chez vous pour cacher un homme mort. Suivez-nous, nous allons vous interroger. Nous cherchons des brigands qui ont fait plusieurs victimes dans la région. » Heureusement, je venais d'entendre sa respiration. J'avais de quoi leur répondre. « Messieurs, je n'y suis pour rien, croyez-moi. Il n'est pas mort. Il a été agressé lui aussi. C'est une victime. Je dois rester auprès de lui et le soigner. » Les soldats me regardèrent, moi, puis la victime, allongée, puis ils reprirent. « Ne quittez pas la ville. Nous reviendrons vous interroger. » La journée passe. Le lendemain matin, je monte dans la chambre. J'ouvre la porte et là, personne. Où est-il passé ? Je descends dans la salle à manger et je trouve un homme, cet homme, assis, en train de manger du pain. Il me raconte son agression et me remercie de lui avoir porté secours. Je lui raconte alors à mon tour comment il est arrivé là et que je n'y suis pour rien, mais c'est un étranger qui l'a secouru. Il aurait voulu rester pour attendre son retour et le remercier, mais il devait rejoindre sa famille qui devait s'inquiéter depuis plusieurs jours à son sujet. Il a insisté pour me rembourser les frais engagés quand il en aura les moyens, mais je lui ai bien dit que ce n'était pas la peine. Tout est déjà payé. C'est ce que je lui ai dit. Nous nous sommes quittés sur ces paroles. Ne vous inquiétez pas, tout est déjà payé. Vous ne me devez rien. Cette narration est inspirée d'une parabole de Jésus, c'est-à-dire une histoire fictive racontée pour illustrer une vérité ou un enseignement. On appelle cette histoire la parabole du bon samaritain. Les samaritains étaient considérés par les juifs comme des étrangers, issus d'un métissage entre des juifs et des envahisseurs, les Assyriens notamment. Les juifs ne les aimaient pas, surtout depuis qu'un groupe de samaritains avait déposé des ossements humains dans le temple de Jérusalem. C'était un acte de souillure extrêmement grave. Dans sa parabole, Jésus met en scène un bon samaritain. Je vous propose de lire cette histoire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en les laissant à moitié morts. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva auprès de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. » Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va, et toi, fais de même. Remarque que le point de départ de la parabole, c'est une discussion entre un professeur de la loi et Jésus. Le professeur de la loi est un enseignant de la Torah, un homme reconnu pour ses connaissances dans la société juive. Aujourd'hui, on dirait que c'est un docteur en théologie, quelqu'un qui a beaucoup de diplômes et qui connaît bien la Bible et la religion. Le narrateur nous apprend qu'il veut piéger Jésus, le mettre à l'épreuve. On sait que Jésus n'était pas apprécié par les hommes religieux parce qu'il bousculait toutes les traditions. Dans le Nouveau Testament, les partis religieux n'arrêtent pas de comploter contre Jésus, ce qui va le conduire à la croix et à une mort terrible. J'aime beaucoup ce passage dans la Bible, car je le trouve assez humoristique. Le professeur de la loi, voulant tester Jésus, lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» On imagine toute la foule qui attend la réponse de Jésus. Va-t-il encore annoncer une théologie révolutionnaire ? Jésus lui répond comme d'habitude, il a l'habitude de répondre par une question. Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Le professeur répond en citant la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. À cela, Jésus répond, et c'est sa réponse que je trouve assez amusante, je paraphrase, « Ben voilà, je n'ai rien à ajouter, tu connais la réponse. Je te félicite, tu as bien répondu. Va, mets cela en pratique et tu auras la vie éternelle. » Le professeur voulait piéger Jésus, mais il se retrouve un peu embarrassé. Il pose une question dont il a la réponse. Jésus le félicite même pour cette bonne réponse, 20 sur 20. Et il l'invite maintenant à mettre cela en pratique. Mais survient une autre question, peut-être pour ne pas paraître trop ridicule devant la foule. Le narrateur précise bien au verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Cette question présuppose que dans l'esprit de celui qui la pose, cette question présuppose que certaines personnes seraient nos prochains et donc il faudrait les aimer, alors que d'autres ne sont pas nos prochains et donc eux, on ne serait pas obligé de les aimer. Qui est notre prochain ? C'est là qu'intervient la parabole. Mon prochain et moi. Jésus raconte cette parabole, un homme qui se fait agresser et dépouiller. Il est tellement mal en point qu'il est entre la vie et la mort. Un prêtre passe par là. Remarquez les verbes utilisés au verset 31. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. D'abord, il descend, ensuite il le voit et il passe à distance. Les prêtres faisaient partie des gens respectables dans la société juive. C'est eux qui enseignaient le peuple, c'est eux qui offraient des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Pourquoi ce prêtre évite-t-il la victime ? Probablement parce que dans la loi juive, on se rendait impur en touchant un cadavre ou même du sang. Ce n'était pas un péché, mais cela rendait impur. Il fallait ensuite s'abstenir d'aller au temple et faire des rituels de purification. Un deuxième personnage arrive au verset 32. On peut noter les mêmes verbes. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Le lévite, c'était un homme qui faisait partie de la tribu de Lévi, donc une tribu d'Israël que Dieu avait consacrée au service du temple. On peut dire que c'était les hommes religieux de l'époque. Et le troisième personnage, c'est le Samaritain, donc c'est le seul qui n'est pas juif. Et remarquez les verbes utilisés cette fois, au verset 33 et 34, ils sont différents. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Donc, contrairement aux autres, le Samaritain arrive auprès de la victime. Et lorsqu'il le voit, il est rempli de compassion. Et lorsqu'il s'approche, c'est pour le soigner. Il l'emmène ensuite dans une auberge pour s'occuper de lui. Et lorsqu'il repart, il le confie à l'aubergiste en lui donnant 2 pièces d'argent, en promettant de revenir et de payer toutes les dépenses supplémentaires s'il y en a. Pour un juif, être aidé par un samaritain, c'était impensable. Cette population avait mauvaise réputation, il fallait les éviter à tout prix. Ici, Jésus remet en cause tous les a priori en faisant de cet étranger, ce samaritain, un bienfaiteur. Il interroge ensuite le professeur de la loi. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Cette question est très intéressante. Souvenez-vous de la question de départ. Le professeur de la loi voulait savoir qui est son prochain, qui il doit aimer. Pour lui, donc pour le professeur, le prochain est donc avant tout considéré comme la personne qui bénéficie de l'amour, la personne qui bénéficie de l'aide. Jésus met en scène un prochain qui aide. Au lieu de voir mon prochain comme celui qui a besoin de moi, Jésus m'invite à voir mon prochain comme celui dont j'ai besoin. Et Jésus va encore plus loin. Dans la parabole, la victime n'a pas la capacité d'accepter ou de refuser l'aide du Samaritain. La seule chose qu'il peut faire, c'est se laisser faire. Non seulement il se laisse faire, mais ensuite, il n'a même pas la possibilité de rembourser son bienfaiteur. Et le Samaritain ne demande rien en échange. Il n'attend même pas des remerciements. Il s'en va incognito. Le personnage du Samaritain illustre l'amour de Dieu, gratuit, inconditionnel. Un amour qui n'attend rien en retour. Et la victime représente chacun de nous, si nous nous reconnaissons comme des hommes et des femmes dans le besoin. Pour conclure, revenons au tout début du texte, à la question de départ, au verset 25. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Notez la formulation de la question « Que dois-je faire ?» La parabole de Jésus nous enseigne que la vie éternelle, ce n'est pas une question de faire, mais de se laisser faire. Lorsque Jésus dit au professeur de la loi « Va et fais de même », il ne lui dit pas de faire comme le Samaritain, mais de faire comme l'homme à moitié mort. Il s'est laissé faire, il s'est laissé soigner par un homme qu'il n'aurait jamais voulu fréquenter en temps normal. Il n'a pas pu faire autrement que d'accepter la gratuité, la grâce de ce prochain, parce que son état misérable ne lui permettait pas de refuser. « Va et fais de même », nous dit Jésus. Avant de se demander comment aimer notre prochain, recevons d'abord l'amour de Dieu. C'est en expérimentant son amour inconditionnel que nous serons capables d'aimer véritablement notre prochain. Amen. Je vous propose de prier à nouveau. Notre Père, merci. Merci parce que c'est toi qui es notre bienfaiteur. C'est toi qui nous donnes la vie alors que nous sommes comme morts. C'est toi qui es notre secours, comme nous l'avons chanté plusieurs fois. Et merci parce que nous n'avons rien à faire, et nous l'avons encore rappelé ce matin. Nous n'avons rien à faire, mais simplement nous laisser faire par toi, par ton esprit, qui vient nous saisir et nous amener à toi. et nous restaurer, guérir notre cœur et nous apporter ta grâce. Merci pour cette grâce. Amen. Est-ce que Charles-Édouard, tu peux nous accompagner dans notre recueillement ou notre méditation? Juste un petit morceau de musique. Avant de passer au partage du pain et du vin avec la Sainte Cène. Nous allons maintenant partager le pain et le vin qui symbolisent le corps du Christ qui a été livré pour nous et le vin qui représente le sang du Christ qui a été versé. Le sang est aussi le symbole de la vie dans la Bible. Par son sang qui a été versé, il nous offre une vie nouvelle et qui se prolonge dans l'éternité. Voici l'un des textes qui mentionne l'institution de ce repas par le Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce geste est bien un geste, tout comme le baptême, qui nous rappelle l'œuvre du Christ en notre faveur. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Et il nous promet que nous le verrons. Il promet aux disciples qu'ils le reverront et à nous que nous le verrons. En attendant, nous sommes appelés à nous rappeler régulièrement de son œuvre en Église, et notamment par le partage du pain et du vin. Alors j'aime bien demander aux baptisés de distribuer le pain et le vin avec moi, donc baptême, Thérèse, vous pouvez venir maintenant pour la distribution du pain et du vin. Nous pouvons nous lever, et lorsque vous aurez reçu le pain et le vin, vous pourrez vous rasseoir, comme ça nous permet aussi de savoir où est-ce que nous en sommes. Alors pour les aspects pratiques, nous allons passer dans les rangs. Alors vous allez voir, nous allons mettre les gants, les masques, et nous allons passer dans les rangs. Les morceaux de pain ont été prédécoupés aussi pour faciliter les précautions. Et nous chanterons le chant après le partage du pain et du vin. Thank you. vous propose maintenant de chanter un chant qui nous rappelle encore l'œuvre du Christ qui est descendu jusqu'à nous pour nous offrir le salut. Je loue ton nom, Éternel.
Je loue ton nom.